Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez Franchement dit.
On va devancer notre rendez-vous du vendredi avec la collègue Emmanuelle Latraverse parce que Justin Trudeau, lui, devance son rendez-vous à 10h30. Emmanuel qui sera en ondes à SN pour analyser tout ça, mais en attendant, on la rejoint au bout du fil. Salut Emmanuelle.
Bonjour.
Je trouvais ça très intéressant de lire le topo de la Presse Plus ce matin où la directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, semble pratiquement régler des comptes. Nos collègues Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. On a l'impression que la crise, elle n'est peut-être plus aussi intense qu'elle l'était, mais présente, là. Ça va pas, tout n'est pas au beau fixe dans la région de Montréal et pourtant, déjà, la directrice de la santé publique de Montréal semble identifier là des lacunes. Elle les nomme. La pandémie aurait dû être gérée à Montréal. La baisse des investissements en santé publique, ça a nuit, tout ça. As-tu été surprise, la teneur des propos de la docteure Drouin?
J'ai pas été surprise de ses propos parce que, objectivement, qu'est-ce que fait la docteure Drouin? Elle dit tout haut ce que le premier ministre a concédé à certains égards bien poliment, sur le côté complètement dysfonctionnel de la gestion des CIUSSS et sur l'impact absolument néfaste des coupes en santé publique dans les dernières années, à savoir de dire que la crise aurait dû être gérée à partir de Montréal. Ben là, la docteure Drouin ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On s'entend. Dès les débuts de la pandémie, c'était clair que Montréal serait davantage touché, que le problème serait à Montréal. Et bien qu'on ait beaucoup comparé la gestion de crise du premier ministre Legault à celle de Lucien Bouchard dans la crise du verglas, il y a une différence majeure. Dans la crise du verglas, le gouvernement avait déplacé son centre des opérations au cœur de la crise, qui était à Montréal, alors que le gouvernement Legault a fait le choix de rester à Québec. Et c'est évident que ça a eu un impact. Si ça n'en avait pas eu, M. Legault ne se serait pas senti le besoin de venir faire ses visites à Montréal à deux reprises dans les trois dernières semaines, là. Donc, moi, je trouve que c'est... Et je comprends ce cri du cœur de sa part à elle, parce que, la situation... Et pas sous contrôle. En tout cas, elle est pas. Moi, je vois pas ça comme une situation sous contrôle. Ouais. Mais la situation s'améliore à Montréal. Mais il va y avoir une deuxième vague. Et il faut être capable de mieux la gérer que la première, là.
Mais j'adhère à ton analyse, à la lecture de la situation. Le seul petit élément où j'accroche sur ces propos, l'élément qui peut créer un certain malaise, c'est que, et sais-tu quoi, je te donne un crédit, là, t'as été une des premières à soulever ce point-là il y a quelques semaines, puis par la suite, entre autres, le Parti québécois a renchéri là-dessus sur la proximité entre le pouvoir politique et la santé publique, la proximité entre le docteur Arruda et le premier ministre. Et, tu sais, dans ses propos, elle dit carrément, depuis le début, moi je l'avais dit au docteur Arruda, à Horatio, qu'elle nomme, que cette crise-là devrait être gérée de Montréal, et il le sait très bien. Tu sais, dans le fond, elle dit, il est d'accord, mais il s'est fait imposer par le politique de gérer ça de Québec. Donc, je trouve que ça vient appuyer cette thèse-là, qu'il y a peut-être une relation, tu sais, à la limite un peu malsaine entre le politique et la santé publique, qui elle-même aurait pu dire, oui, effectivement, c'est vrai qu'on devrait être à Montréal.
Tu vois, moi, je vois pas le lien entre être à Montréal et la relation malsaine entre, en tout cas, la relation trop intime entre les deux. Je pense qu'en disant ça, elle essaie de protéger M. Arruda en faisant valoir que c'est pas de sa faute à lui si la décision a été prise de gérer ça de Québec. Et il y a un fait intéressant, c'est que certains diront qu'elle règle ses comptes, mais quand on lit le dossier au complet, tout le monde vient dire qu'elle a raison, là. Je veux dire, Alain Poirier, qui est l'ancien directeur national de la santé publique au Canada et qui est au Québec et qui est maintenant DSP de l'Esprit, dit que Montréal est impossible à gérer parce qu'elle n'a pas l'autorité sur les CIUSSS et que c'est complètement dysfonctionnel. Richard Massé, qui est le numéro 2 de la santé publique, dit que oui, la gouvernance est difficile à Montréal pour ces problèmes-là. David Levine, qui est l'ancien directeur de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal avant la réforme des CIUSSS, vient appuyer ce qu'elle dit. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce que sous prétexte qu'on est en crise et en situation de pandémie, tout le monde se se réserve d'émettre des questions. Moi, je vois Mme Drouin regarder ce qui se passe à Montréal et se dire, minute papillon, là, on se tape pas ça deux fois, là. C'est parce que, je veux dire, c'est quand même hallucinant, là. C'est une petite unité qui a l'habitude de faire 6 000 enquêtes par an puis qui en a fait 25 000 en trois mois, là. Et la réalité, et personne veut jeter c'est pas populaire de jeter une partie de la pierre à Monsieur Arruda parce qu'il est devenu un héros national, là. Mais la réalité, c'est que on peut bien faire des profils en disant que le 9 mars au matin, il est arrivé dans le bureau du premier ministre avec un constat grave disant qu'il faudrait prendre des mesures musclées. Je m'excuse. Comment ça se fait qu'il s'est réveillé le 9 mars au matin, là? Je veux dire, la réalité, c'est que la santé publique, c'est que lui, comme DSP, a plaidé auprès de la population tout le mois de fin janvier et tout le mois de février qu'il fallait qu'on se calme, qu'il n'y avait rien là, là.
Mais oui, la peur, ça faisait faire des affaires qui n'avaient pas de crise de bon sens.
Alors, c'est vrai que la peur, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, mais ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, c'était pas normal qu'il n'y ait pas un plan de pandémie plus précis qui soit mis en place. Qu'on n'ait pas mieux coordonné la réponse des CHSLD, qu'on n'ait pas commandé le matériel qui manquait, etc. La réalité, c'est que la Colombie-Britannique puis l'Alberta ont pas le même profil, mais la Colombie-Britannique, je pense qu'on peut faire une comparaison. Ils ont un aéroport international de Vancouver qui accueille autant de vols internationaux que Montréal. Ils ont eu le même problème des frontières non fermées, etc. Et il y a personne qui va me faire croire que seulement la semaine de relâche qui fait la différence entre les deux portraits, là. Je veux dire, à un moment donné. Alors, oui, il y a des leçons à tirer de ça, et moi, je la trouve très courageuse de oser le dire pour forcer ce débat-là sur la place publique.
Ouais. Et je me souviens que dans l'entourage de François Legault, après leur premier passage à Montréal, il y a un des conseillers de Monsieur Legault qui me disait à micro fermé qu'ils avaient tous été charmés, j'ai envie de dire, ou agréablement surpris par l'aplomb de la docteure Drouin, tu sais, de la côtoyer en personne. Ben justement, quelqu'un qui a de l'aplomb, c'est quelqu'un qui a pas peur de dire ce qu'il pense et qui veut s'assurer que les choses bougent. Emmanuel, il nous reste 3 minutes avant que je doive te laisser aller. Je veux qu'on aborde la question de la difficulté de prendre des décisions qui souvent vont paraître plutôt simples. Tu sais, augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, fallait le faire. François Legault disait on aurait dû le faire avant. Mais là, à partir du moment où vous faites ça, il y a comme une espèce d'effet domino pour on s'en rend compte. Les impacts sur le privé, les autres corps de métier qui demandent des exigences, des formations supplémentaires qui vont dire ben là, c'est pas normal qu'on ait le même salaire. Donc, tu sais, il y a un effet domino, une espèce de cascade qui est inévitable. Et là, ça devient quand même un certain casse-tête sur le bureau de François Legault.
Mais oui, parce que de un, il y a seulement pour l'instant les préposés aux bénéficiaires qui vont bénéficier de cette importante augmentation de salaire, seulement ceux dans les CHSLD. Alors, si tu es un préposé aux bénéficiaires qui a 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience dans un hôpital et tu as fait 800 heures de cours, tu vas quand même être moins payé que quelqu'un qui a eu 300 heures de cours et qui va se pointer en CHSLD. Il y a une inéquité là-dedans. Et le problème des résidences privées est absolument réel. Le gouvernement évoquait hier qu'on pourrait regarder à donner une aide aux résidences privées. Il va falloir avoir une réflexion sévère là-dessus, là. Moi, je m'excuse, mais il y a des résidences privées. Bon, il y en a qui sont des OSBL, qui sont des petites résidences. C'est pas un univers uniforme, là. Mais il y en a quand même, là, celles qui nous viennent à l'esprit le plus facilement au Québec, là. Mm-hmm. Chartwell. C'est une société cotée en bourse, là. Je veux dire, c'est des propriétaires immobiliers. C'est une entreprise qui génère des profits. On va aller subventionner les profits d'une entreprise privée. Les résidences Soleil, elles appartiennent à un homme d'affaires.
Un richissime homme d'affaires, oui.
Alors là, sérieusement, on va aller subventionner les résidences Soleil pour garantir les marges de profit de son propriétaire. Je veux dire, il y a un très, très gros problème. Moi, j'ai vu par ailleurs, dans la réponse de M. Legault, une réflexion intéressante dans ce qu'il a dit hier sur ce sujet-là. Il dit, la réalité, c'est que les résidences pour aînés, au début, c'était pour les gens qui étaient autonomes.
Oui.
Et qu'avec le temps, ces gens-là ne voulant pas déménager, ça a forcé les résidences privées à engager de plus en plus d'aides-soignants, justement, pour prendre soin de leurs résidents. Est-ce que la solution, c'est pas qu'à partir d'un certain niveau de soins, tu sois obligé d'aller en CHSLD? Donc, on sépare le principe des soins autonomes, des soins lourds entre le privé et le public. Ça, c'est une partie de la réponse, par ailleurs. Mais ça, c'est une restructuration beaucoup plus large, je pense, des soins qu'on donne aux personnes âgées, je vais dire, qui ne va pas se régler en quelques semaines, là.
Absolument. Réflexion qui est pertinente et très intéressante. Emmanuel, je te laisse aller. Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle au début de la semaine.
C'est promis. Merci. Au revoir.
Salut.